toutes et bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h passé de 3 minutes et nous sommes le lundi 12 juin. Insectes, enfance, volée et lutte féministe au menu de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir dans le studio à mes côtés Benjamin. Bonjour à toi.
Bonjour à toi, Eve. Comment ça va?
Ça va très très bien. Et Benjamin, pour ta dernière chronique de l'année, tu n'es pas venu nous parler de la mort de Berlusconi, tu es venu nous parler d'un autre parasite.
C'est ça, je vais vous parler des tiques parce que je me suis fait mordre dernièrement et donc je me suis dit, quel bon sujet.
Et tu es avec nous, donc avec moi dans le studio et avec les auditeuristes pour cette première partie d'émission. À 13h30, vous entendrez le journal régional proposé par Le Graal et en deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir Mathie et Jeanne de La Base, là aussi pour leur dernière chronique autour des questions de lutte pour l'égalité des hommes et des femmes. Enfin, lundi dernier, le Palais sur Vienne accueillait la 16e étape du Tour de France des déserts médicaux. Vous l'entendrez à 13h50, c'est le sujet de la chronique en Limousin. Et à 13h57, je vous donnerai la météo de demain. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et Benjamin, voici l'aboutissement donc d'une année de chronique ensemble mensuelle. Et aujourd'hui, donc, je l'ai dit, nous l'avons dit, tu viens nous parler donc d'un insecte qui pullule un peu partout dans les champs, les jardins, les forêts. Un insecte qui t'a sauté dessus et qui t'a donc pris et qui a fait de toi une victime.
C'est ça. Et comme Spider-Man, je me suis transformé en super tic. Alors déjà, ce n'est pas un insecte, c'est un acarien, mais on y reviendra. Plus tard, ce n'est pas grave, Eve, ça arrive à tout le monde, mais tu sauras qu'un insecte n'a pas 8 pattes. Alors effectivement, bonjour à tous, c'est Benjamin, et bienvenue dans votre chronique mensuelle qui vous apprend des choses édifiantes sur des choses pas très édifiantes. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de l'été, j'ai donc décidé de rester dans le thème en vous parlant d'un mâle qui ronge les sous-bois. Une menace invisible et pourtant qui nous observe de ses yeux globuleux, si on peut appeler ça des yeux, qui nous attend tapis dans l'ombre des branches, guettant le moment le plus opportun pour nous pomper allègrement. Vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous parler donc de la tique, comme tu l'as dit en introduction. Et oui, on dira ce qu'on veut des tiques de la tique stoïque à la tactique poétique et héroïque qui tombe à pic sur les types acnéiques like Fandaspic, mais la tique a une technique de chasse très simple qui ressemble presque à une leçon de vie. Ça va, tu suis?
Ouais, très bien.
Alors, pourquoi une leçon de vie? Car oui, d'accord, se faire pomper sans consentement, c'est désagréable. Mais pensez à la grâce divine de ce gros acarien se lâchant des branches pour se fixer dans votre peau afin de se nourrir. Rien ne compte plus pour lui que de manger. Manger pour vivre et vivre pour manger, la tique allie avec passion ses deux mantras, un peu trop d'ailleurs, hein, car elle peut faire jusqu'à 600 fois son poids à la fin de son repas. Hein. C'est un peu comme si moi, après mon repas, je faisais le poids de la tour administrative. Alors, j'ai pas fait des calculs, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Alors, à côté de cet aspect philosophique, on peut s'accorder aisément autour de cette table pour dire que la tique, bah, c'est quand même une plaie. Je sais pas si tu es déjà fait attaquer par cette bestiole.
Non, jamais. J'ai la chance de pas attirer les tiques.
Peut-être parce que tu ne te balades pas dans les bois. En tout cas, sache que elle n'est pas raciste du sang, c'est-à-dire qu'elle va manger du sang des animaux à sang froid et à sang chaud. Donc même les lézards ne sont pas immunisés aux tiques, et ça m'a étonné d'apprendre que ça pouvait attaquer les reptiles. En fait, c'est un véritable vampire, mais qu'a pas d'aile, et c'est également une armoire à pharmacie ambulante.
Les vampires ont des ailes?
Bah ouais, quand ils se transforment en chauve-souris, tu vois. Enfin, je trouve, hein. Non, tu trouves pas?
Si, mais je me balade pas en forêt, c'est pour ça.
Oui, c'est ça, et puis tu croises pas de vampires non plus tous les jours. Alors, pourquoi je dis que c'est une armoire à pharmacie ambulante? Car en fait, si on la sent pas se fixer sur notre peau, c'est à cause de sa salive. En effet, afin de ne pas alerter l'hôte, ni que son système immunitaire agisse, la salive de la tique possède des propriétés anticoagulantes et anti-inflammatoires. Sa salive est également capable d'éliminer les agents pathogènes qu'elle pourrait ingérer dans le sang de sa victime. Si jamais on la trouve, hein, pas de problème, son rostre, donc c'est son dard en quelque sorte, hein, de sa bouche, est solidement enfoncé et sa salive fait également office de colle pour bien se fixer, donc c'est une salive multifonction. Dire que j'étais content d'être capable de faire des bulles avec ma salive me voilà un peu jaloux, mais bon, chacun ses talents, j'ai envie de dire. Et en fait, une tique, c'est un peu une arme chimique également, c'est pour cela qu'on conseille de la retirer avec un tire-tique en la dévissant et non avec une pince. Car, tu sais, c'est quoi le risque de l'enlever avec une pince?
Que la tête reste dans la peau.
Alors, la tête, déjà, c'est un problème qu'elle reste dans la peau. Mais c'est surtout qu'en fait, si avec une pince, tu risques d'écraser son corps. Et quand tu écrases son corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce qui est à l'intérieur va ressortir par sa bouche. Donc en fait, elle va vomir toutes ces substances nocives.
Moi aussi, je vais vomir toutes ces substances.
Là, mais bref, c'est pas très propre, mais effectivement, en fait, tout va sortir dans notre corps, et donc ça, c'est pas ouf. Et encore, ça, c'est quand on a de la chance, parce que si ça sort de l'autre côté, bah, je vous fais pas un dessin. Voilà, hein, ça sort du trou de balle. Bref, pour au moins finir sur une note positive, la salive de la tique pourrait bien nous sauver la mise plus tard, car ses capacités sont justement étudiées par les scientifiques afin de réaliser des médicaments pour certains cancers, comme celui de la peau ou du pancréas, chacun à son école, mais également pour prévenir contre la thrombose veineuse, les AVC ou bien les embolies pulmonaires. Enfin, c'est pas une raison pour laisser des tiques sur son bras, hein, ça marche pas comme ça la vie. Mais voilà, donc c'est en étude. Et finalement, bah, la Dracula des bois n'a donc pas fini de me faire de l'ombre sur l'utilisation de sa salive. Et ça, franchement, c'est pas cool, car ma capacité à faire des bulles ne sera jamais reconnue par les autorités scientifiques. Moralité de cette histoire, de ennemi à ami, il n'y a qu'un pas pour dire que la tique est fantastique.
Merci beaucoup Benjamin, et pour rebondir avec cette histoire de salive et de tique, on m'a confié l'autre jour un conseil de grand-mère.
Je t'écoute.
Pour enlever les tiques très facilement sans que la tête reste, il faut mettre un peu de salive sur son doigt et la faire tourner sur elle-même, et la tique se décroche très facilement, pas besoin d'un tire-tique ou d'un pince-tire.
Tu veux dire que notre salive à nous pourrait contrer la sienne ?
Oui, parce qu'elle sert de lubrifiant et donc ça décroche la tique. Alors évidemment, vous pouvez aller voir un pharmacien. Après, s'il vous reste une auréole sur la jambe, c'est pas normal.
Et si le pharmacien il te crache sur la jambe aussi, ça veut dire qu'il nous soigne, c'est bien ça?
En tout cas, vous sachez que c'est une possibilité. Si vous êtes vraiment dans une solution où vous ne pouvez pas enlever la tique autrement, eh bien vous pouvez utiliser un peu de votre salive afin de lubrifier et que la tique s'enlève.
Bah, merci beaucoup pour ce conseil.
Bah, écoute, de rien, au plaisir, ça reste dans le thème. Hein. On est sur la période estivale, c'est bien de donner des conseils aussi aux auditeurs.
Et vérifier nos animaux.
Oui.
Oui, oui, bah oui.
Même les lézards.
Et même si on se trimballe avec son lézard dans les bois, on sait jamais.
Merci Benjamin. Alors, comme tu le sais, j'aime trouver des titres appropriés en lien avec les chroniques. Si les gens ne me proposent pas de musique, parce qu'il y en a qui m'en proposent, comme Audrey par exemple, elle aime bien proposer des titres musicaux. Alors toi, tu ne le fais pas, tu ne me proposes jamais de titres musicaux.
Mais en même temps, va trouver un titre sur les tiques.
Et bien justement, j'ai tapé sur ma barre de recherche tout à l'heure « tic ». Eh bien, j'ai trouvé un titre musical qui s'appelle « Tic ». Donc, on va l'écouter.
C'est de qui ?
On se retrouve juste après. Je ne dis pas, je le dirai tout à l'heure pour D'accord. laisser plus de suspense. Merci, Benjamin. It's getting bigger. Racks getting bigger. Cash getting larger. He thought he was loving me good, I told him go harder. She thought she was killing this shit, I told her go harder. Just look at this alkaline wrist, cause I got that water. Ass getting thicker. Cash getting thicker. That's that thick. That's that real shit. That's that jelly, baby. Champagne and cherry, baby. That's that thick. That's that ball drop. That's that keep going, that's that never stop. That's that thick, that's that na-na. That oochie coochie la-la. Yeah, that's that Fiji aqua. Candy girl pinata. Hit it in the car and take you back to the casa. Bet I got you rock now. That thick all over the yacht now. That's that freak nick. That's that 1996. That's that Moon Miami bass. 12 in a trunk, 808. That's that Castro. She like Mastros. She say she on a diet. Girl, you better not lose that ass though. That's that dick. That's that real shit. That's that jelly nigga. That's that really nigga. That's that dick. That's that ball drop. That's that keep going. That's that never stop. Baby, that's that dick. This shit. Ooh, that's that strawberry, that's that grape and cherry. Ooh, that's that ginseng. Cut that bitch like culinary. Ooh, that's the bounce. Spend my money, make it count. If it's lost, then it get found. Just keep dropping that shit down. That's that summer, that's them hummus. That's that girl, give me your number. That's that joy, that's that scarlet. That I just got out of college. That's that I don't do this usually. I don't know what you do to me. That. Your body, right?
chercher.
Beyoncé sur Bram FM avec le titre Tic qui vient donc terminer la chronique de Benjamin qui était donc sur le sujet des tics.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Vous êtes ici et nous sommes le lundi 12 juin et aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, mais aussi qui nuisent à leur scolarité, leur santé, leur développement physique et mental. On estime que 160 millions d'enfants dans le monde sont impliqués dans le travail, soit une augmentation de 8,4 millions d'enfants au cours des 4 dernières années, avec 112 millions d'enfants qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, 31,4 millions d'enfants qui sont impliqués dans le secteur des services et 16,5 millions d'enfants qui travaillent dans l'industrie. Alors pour continuer un petit peu dans les chiffres, près de 28% des enfants âgés de 5 à 11 ans et 35% des enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés. Parce qu'il y en a qui travaillent et qui sont scolarisés, mais d'autres qui ne sont pas du tout scolarisés. Pire encore, 79 millions d'entre eux exercent des activités dangereuses et des millions d'autres sont en danger en raison des conséquences de la pandémie, par exemple du Covid-19, qui a exacerbé encore ces inégalités. Ces enfants qui travaillent sont partout, mais ils sont invisibles, domestiques, dans les maisons, derrière les murs des ateliers, cachés dans des plantations. Et si la grande majorité des enfants travaillent dans le secteur agricole, les pires formes de travail des enfants comprennent aussi l'utilisation d'enfants comme esclaves, ou dans la prostitution, ou dans la vente ou le passage de drogue dans les frontières par exemple, le crime ou l'enrôlement des soldats dans des situations de conflit ou pour d'autres travaux dangereux. Le 12 juin, aujourd'hui donc, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants et elle est dédiée à tous ces enfants forcés donc de travailler alors qu'ils devraient être à l'école. Le travail des enfants est essentiellement conduit par la pauvreté des familles et des communautés, mais c'est aussi le produit d'autres facteurs comme les normes sociales qui le tolèrent, le manque d'emploi décent, la migration et les situations d'urgence. Il est également une conséquence des inégalités sociales renforcées par les discriminations. En effet, les enfants des populations indigènes et des basses castes courent plus de risques de devoir abandonner l'école ou d'être mis au travail. En Afrique subsaharienne, par exemple, la croissance démographique, l'extrême pauvreté et les mesures de protection sociale inadaptées font que 16,6 millions d'enfants supplémentaires ont été astreints au travail pendant ces 4 dernières années. Les progrès nécessaires pour éliminer le travail des enfants sont donc étroitement liés à la réduction de ces vulnérabilités, ainsi qu'à l'atténuation des chocs économiques et à l'accès aux services sociaux. Alors comment agir concrètement ? Eh bien vous... Tout seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais il existe aujourd'hui des ONG ainsi que des associations qui font de la lutte contre le travail des enfants leur priorité. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations ou retrouver des chiffres que j'ai donnés pendant cette chronique, vous pouvez vous rendre sur Organisation internationale du travail qui faisait aujourd'hui la 111e session de la Conférence internationale du travail et dont aujourd'hui la thématique était la discussion autour de la justice sociale et l'élimination du travail des enfants. Mais vous avez aussi une autre manière d'agir, un peu plus personnellement, c'est aussi conscientiser nous ce qu'on utilise dans notre quotidien, qui vient ou qui provient en tout cas d'endroits où il n'y a pas de code du travail, où le droit du travail est bafoué et où potentiellement des enfants travaillent pour nous, en tout cas notre confort matériel. C'est aussi conscientiser notre pouvoir d'achat qui fera aussi que demain le monde sera peut-être un peu plus beau. Voilà pour ce qu'il en est de la journée internationale du travail des enfants, ou plutôt pour la fin du travail des enfants. Il est 13h20 sur Bram FM et on va faire une pause musicale avec Cochin Moon et son dernier titre Isian feat Melik Shahin et on en reparle juste après. We'll be right back.
sana veremem. Kuralımı bozdum, başucuma koydum. Bu kafa neşe içinde, burada beni yere seremezsin. Sana uymaz, sazıma bir yer ver. Bu kara fasıl içinde, burada beni yere seremezsin. Kuralını bozdum, başucuma koydum. Bu kafa neşe içinde, burada beni yere seremezsin. Sözü sana uymaz, sazıma bir yer ver. Bu kara fasıl içinde, beni yere seremezsin. Kuralını bozdum, başucuma koydum. Bu kafa neşe içinde.
Koshin Moon avec le titre Isian sur Bram FM. Vous êtes ici, oui, sur Bram FM. Nous sommes en direct dans le studio jusqu'à 14h. Dans un peu moins d'une dizaine de minutes, ce sera l'heure du journal régional proposé par le Graal. Mais j'aimerais prendre le temps de m'arrêter sur ce titre, Koshin Moon, enfin sur ce groupe et ce titre. Donc, qui sont-ils? Eh bien, ils sont deux autodidactes aventuriers, des dizaines d'inspirations musicales, des voyages soniques au fond de l'âme et aux quatre coins de la planète. Le duo Koshin Moon est une sono mondiale à lui tout seul. Et quand il est question de passion en musique, la passion est souvent la plus forte. La flamme qui nous traverse, elle nous terrasse. On se sent vivant et en même temps, notre enveloppe corporelle nous semble bien secondaire. Enfin, on oublie presque, ça nous transcende. Quand la musique entre dans nos vies, on tente de la connaître ou de la comprendre. Alors, si on plonge dans l'histoire d'un genre, d'un musicien, d'une époque ou d'une région, on lit des bios, des articles, des témoignages, des pionniers concernant le rock'n'roll par exemple ou la dance music. On apprend souvent avec délice les premiers balbutiements dans les pays occidentaux d'une révolution culturelle qui a balayé codes et genres d'un monde et entré donc dans la modernité. Et pourtant, on nommait très souvent que l'Occident est bien loin d'avoir été le seul dans les lancements des mouvements musicaux au XXe siècle. On oublie que ce sont les instruments en premier lieu et la technologie qui a permis leur essor et celle des machines qui ont souvent à l'origine de la musique au même titre que les musiciens qui l'ont porté. Les musiques psychédéliques turques, elles, ont curieusement sonné de la même façon qu'aux États-Unis dans les années 60. Ainsi, les claviéristes du Rai algérien ont donné à écouter une musique de club pas si lointaine que la house des années 70. L'acide indien n'avait rien à envier à son homologue de Chicago au début des années 80. En grand explorateur des musiques de trance et de danse, pour en revenir à eux, le duo français Koshin Moon en est certain. Si les inspirations et les répertoires changent d'une région du monde à l'autre, les sonorités très proches, typiques d'une génération, ont vu le jour simultanément dans le monde. Et de quoi dresser des ponts plutôt que d'ériger des statues. On est face à une internationalisation de l'instrumentarium, c'est ce que confie en tout cas le groupe Cochin Moon. Alors son histoire, c'est celle de deux hommes traversés par des délires soniques de siècles de transmission orale. Et le groupe ne se place pas en archiviste ou représentant de la scène, non. Il se veut plutôt incitateur de la curiosité. Et à l'écoute de leur discographie, une envie nouvelle débarque, celle de farfouiller l'histoire de cultures aussi variées qu'éloignées, le rébético grec, le raga indien, le ghazal afghan, le mawal égyptien, toutes ont en commun une recherche de l'hallucination collective et par leur pouvoir enivrant, elles ont un caractère universel passionnant. Et tout aussi passionnant, je vous propose de plonger dans l'univers de l'Occitan, désormais avec Michel Feltin-Palas et Radio Pays, qui vous proposent leur chronique sur le bout des langues pour décortiquer les langues régionales. Vous êtes ici sur Bram FM et dans 5 minutes, ce sera l'heure du journal régional. À tout de suite.
Anem sus Radio País, que se mateix de retrobar Michel Feltin-Palas, tant sabem si és a su darrera letra d'informacions sobre el bout de langue. Adiu, Michel.
Adiu, Joan Adau, adiu a tots.
I donc, aquesta setmana que t'interesses a Mulier i a les famoses precioses ridicules i que expliques que lieu que les avem molt jutjades.
I què? Que diria us auditus que han estudiat a l'escola que era un peço de teatre, diria nous, mais tout le monde que han entenut a parlar d'aquellos preciosos ridiculos e d'un langage estrany. Nous disent pas, per exemple, en mainada, mais, quand va oublier en français, ressentir les contre-coups de l'amour permis. Nous disent pas, couras, mais, délabyrinter les cheveux. D'aperos, lo capetch quero l'affronteur des temps, las pulpetos, les coussinets d'amour, lo mirall, le conseiller des grâces, et ataro enseguin.
Et verstat qu'il y a un costat ridicule, que te podem dire.
Mais las causes que son mei complicados se disen los cercaires qui han estudiat aquest moviment, et qu'en hican endavant tres arguments. En primer, que cau comprendre que j'avais une forme de second grat en aquest moviment, las preciosos que cercaven a s'amusar d'apus muts. Udrin, cum atan hazen, escribas francès du segle XX, cum Raymond Queneau ou Georges Perec, et sabes lo qui a escriut ulibe chens nado lettre e. En usau, las preciosos han constituït un dous purmes moviment féministe. Que cau saber qu'au segle XVII, les semnos, quan seren, de l'aristocratie, n'amènent pas guaire d'éducation, n'amènent pas le dret, per exemple, d'estudiar le latin, et qu'ero un problème dos grands per mou, l'orthographie du français, qu'ai bastide, sus le latin. Arabets, per eros, crea le nou langage, qu'ero un faïssou, de parlar toutu de la langue française et d'a refusar l'instauration du bon usage qui voulait imposer le poudé à travers l'Académie française, composé de Sunke, Domis, de Segu.
Et en vérité, ni ne pensons pas, c'est vrai que c'est enganat. Et donc, c'est un dernier argument.
Et les précieuses cannabutes ont une influence sur nous, français de Wey. Que son eros, per exemple, qui han inventat adverbis, qu'emplegam souvent cum furieusement, terriblement ou diablement, qui au començament est passabon per excentricitats. Que son eros en ver qui han inventat expressions cum faire des avances ou les bras m'en tombent. Que son eros tustem qui han remplaçat damoiselle per demoiselle et guarir per guérir. Et vedes, n'a t'sabem pas, mais tu, jou, et tous les francophones qui parlam drin preciosos.
Eh bien, que s'encallera brembar. Non, per contre, quand parles de les preciosos, que en realitat, que Molière, per mou, que em d'accord que les preciosos que existeixen en la peça de Molière son que serà, n'hi pas un moviment verdader.
Non, que hi ha un moviment verdader.
Ah!
I Molière que s'en enganat, mais non. Que era un grupo de gens a París, surtout dans l'aristocratie qui existait, que j'ai vu un dictionnaire du langage de la précieuse, et Molière qui s'en est servi d'inspiration faire escriver la sous-opèce et c'est une truffa dream. Mais nous, qui tout à coup, qui est liberté.
D'accord, d'accord. Et comme disais, il y a qui sont les mots, le langage des personnages qui ont baillé expressions, mais nous, qui sont les vertes, qui n'existent. D'accord, ok.
Les expressions de la paix qui sont inspirées de la réalité et de ce mouvement qui a existé dans la vérité au milieu du siècle de 17 ans.
Et maintenant, la lettre sincère sur le site internet de l'Express sur le bout des langues que c'est qu'on a vécu. Merci, Herr Michel Feltempalas, et d'inca à l'autre semaine.
D'inca à la semaine qui vient.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous pouvez retrouver la chronique sur le bout des langues en version papier sur le site de l'Express. C'est donc Michel Feltin, Palas et Radio Pays qui s'entretiennent en occitan et qui nous proposent cette chronique. Et on les remercie de nous procurer un peu d'occitan sur les ondes de Bram FM, bien qu'il y ait d'autres rendez-vous avec l'occitan tous les mois. Dans quelques instants, nous repartirons de la base avec Mathie et Jeanne. Il est 13h31, vous êtes ici sur Bram FM. Nous sommes dans le studio jusqu'à 14h, mais pour l'heure, c'est l'heure du journal régional proposé par le Graal. On l'écoute et on se retrouve juste après. À tout de suite.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. À partir de demain, les restrictions des usages de l'eau vont se renforcer sur les trois quarts du département de la Creuse. Quelques orages localisés n'ont pas changé grand-chose au déficit pluviométrique. Le sud et surtout le sud-ouest du territoire restent uniquement en vigilance. À compter de demain, il ne sera plus possible d'arroser jardins, potagers et espaces verts entre 8h et 20h le soir. Interdiction de remplir ou de vidanger les piscines et interdiction de laver les véhicules en dehors des stations de lavage. Tuer des animaux, ce n'est pas un spectacle. Voilà un des slogans utilisés par l'association One Voice qui organisait une mobilisation contre les corridas. Plusieurs rassemblements en France, samedi, dont un à Limoges. Les passants étaient invités à signer une pétition contre cette pratique autorisée dans 11 départements français. La rentrée scolaire se prépare sans attendre que celle-ci soit terminée. En Creuse, les résultats du mouvement sont loin de satisfaire tous les enseignants. Il s'agit de l'ensemble des résultats des vœux d'affectation formulés par les enseignants et professeurs des écoles. Amélie Horicombe est représentante du personnel au sein du syndicat FSUS Nuit PP 23. Elle dénonce les changements de fonctionnement de ce mouvement et les incohérences qu'il peut entraîner.
Cette année et depuis encore cette loi de transformation publique de 2019, les règles ont changé et l'algorithme cherche à affecter tout le monde tout de suite. Donc on retrouve des collègues qui se retrouvent avec des postes qu'ils n'ont pas demandé. Donc souvent loin de chez eux, avec des qualifications qu'ils n'ont pas, et souvent des jeunes avec un barème moindre qui ne leur permet pas d'obtenir des postes à côté de chez eux, et donc se retrouvent sur des postes qu'ils n'ont pas du tout demandé et font des recours ensuite parce qu'ils veulent changer. Avant on avait une liste, on savait qui était affecté où et pourquoi, là maintenant on n'a plus rien, donc c'est seulement par les retours des collègues, qu'on peut savoir les résultats du mouvement.
Propos recueillis par Élodie Bourriot de RPG. Il y avait 10 prétendantes au sacre de Miss Haute-Vienne. L'élection avait lieu samedi à l'espace du Crousy à Boisseuil. Manon Billa a 20 ans, elle est étudiante à Limoges et elle représentera donc la Haute-Vienne à l'élection de Miss Limousin. Une élection qui se fera sans Miss Creuse, puisque l'ensemble du comité creusois a récemment démissionné. Une candidate représentera tout de même le département lors de l'élection de Miss Limousin le 1er octobre prochain au Zénith de Limoges. C'était une fin de semaine idéale pour mettre en avant le sport féminin. Par exemple, les filles du CAB ont battu Tarbes 18-6. Les joueuses de rugby corrézienne sont donc championnes de France de Fédéral 1. La saison prochaine, elles sont assurées de monter en Élite 2. En foot, la Coupe de la Haute-Vienne a été remportée par les joueuses de l'Occitane Football Club. Elles ont battu l'équipe de Vérac par 6 buts à 1. Après une saison sans faute, elles terminent également première du championnat féminine à 8 de départemental 1. 1. Enfin, la première épreuve de l'association cyclisme au féminin à Saint-Bonnet-de-Bellac, inscrite comme troisième manche de Coupe de France Nationale 2, a été remportée par Laura Guégan de la Team Sprinter Club Féminin. La course comptait également comme quatrième manche de Coupe de France Nationale 1. Course remportée par Julie Bégaud de la Team Féminine Chambéry. Le parcours de 105 km traversé 17 communes du nord. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle semaine à tous.
Vous êtes ici avec Aver Marie.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast, nous écouter en direct. Nous sommes ici dans le studio jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin suivie de la météo. Pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Mathis et Jeanne à mes côtés. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Eve.
Et ensemble, nous allons repartir depuis la base. La base.
Allez, dernière chronique de l'année et surtout dernière chronique pour Jeanne. Et oui, mon amie Jeanne se casse caresser des vaches près de la Bretagne pour vivre sa meilleure vie de paysanne engagée pour un monde meilleur. Bravo Jeanne ! Alors, je dis tout fort à la radio, merci Jeanne pour ta présence et ton regard affûté et énervé. C'est bon de savoir qu'on n'est pas toute seule dans ce monde tout pourri.
Je plus sois.
Alors, pour fêter ton départ, on va aborder le sujet le plus chaud, le plus délicat, le plus malaisant. J'ai nommé la pédocriminalité. Ouais, tout de suite, on arrête de rigoler. Quand on plonge dans le féminisme, on ne peut pas échapper à l'horreur du silence lourd qui entoure les abus et les attouchements sexuels contre les mineurs. Et surtout, on n'oublie jamais, jamais que le patriarcat permet cette pédocriminalité. Allez, on vous explique tout ça après.
Alors comme ça, pendant qu'on va vous parler de ce sujet terrible, pour remettre les horloges à la même heure, on va vous répéter durant toute la chronique cette phrase simple. Un enfant de moins de 16 ans n'est jamais consentant. On peut le croire, hein, se dire qu'en fait si, le désir c'est un truc ambigu et complexe, blablabla. Mais voilà, en fait c'est s'aveugler complètement que d'oublier plein de facteurs qui accompagnent le désir s'il y en a. C'est-à-dire le pouvoir qu'a un adulte sur un enfant, le contexte de confiance, d'envie d'être aimé, d'être accepté, d'être perçu comme une adulte. La violence intrafamiliale, l'éducation qui répète « écoute les adultes, fais un bisou, c'est pour ton bien », et j'en passe. Hein. Mais revenons à notre ami le patriarcat. Mais comment fait-il pour légitimer la pédocriminalité celui-ci ?
Ben c'est bien simple, hein. Plein d'astuces. Tout d'abord, encourager, décorer et financer des hommes et des femmes connus qui sont accusés de pédocriminalité. Ensuite, médiatiquement, les défendre et leur donner le droit à la parole.
Comme à Polonsky, bien sûr, Luc Besson, Woody Allen, Christophe Frugia, Catherine Corsini.
Un enfant de moins de 16 ans n'est jamais consentant.
Puis, relayer des films, des images, des œuvres qui romantisent la pédocriminalité comme une forme de relation inoffensive, ambiguë ou pire, érotique.
Allez, donne-nous des exemples.
Les photographies de David Hamilton, où il ne photographie presque que des adolescentes en tenue légère et souvent assoupies.
En littérature, on a le fameux Lolita de Nabokov, Les moins de 16 ans de Gabriel Matzneff, dont on a interviewé, c'est vraiment un enfer. Hein. Mm. Si Le grain ne meurt d'André Gide, Le roi des aulnes de Michel Tournier, qui obtient même, en 1970, le prix Goncourt.
Et en filmographie, on a le fameux Léon de Luc Besson, Le vieil homme et l'enfant de Claude Berry, American Beauty de Sam Mendes, La mauvaise éducation de Pedro Almodovar, La petite de Louis Malle et toujours et encore Lolita de Stanley Kubrick. Et pour ce dernier, on vous propose 50 secondes de pur plaisir de bande-annonce.
Monsieur Humbert.
Madame Hayes.
Charlotte. Ma petite Lo.
Magnifique. D'après le chef-d'œuvre de Vladimir Nabokov.
Elle fera tout ce que vous lui direz. C'est clair, elle a le béguin.
un film d'Adrian Lyne.
C'est qui cette petite?
C'est ma fille.
Vraiment? Sale menteur.
Vous dites?
J'ai des assommants, cette moiteur.
L'histoire d'un amour brûlant.
C'est pas de l'amour, hein. Voilà, juste on revient, c'est pas de l'amour.
Mais c'est brûlant.
Oui, clairement. Ok, je répète, un enfant de moins de 16 ans n'est jamais consentant.
Et comme pour la culture du viol, on ne peut pas excuser les réalisateurs et auteurs en fonction de l'époque de réalisation ou d'écriture. Il n'y a pas une époque qui excuse des violences pédocriminelles. Il n'y a pas une époque où ces comportements peuvent être cautionnés. Ces hommes sont des gros dégueulasses, défendus et protégés par la société, par un système bien ancré de protection des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Un enfant de 16 ans, de moins de 16 ans, n'est jamais consentant.
En parlant des petites astuces du patriarcat, on peut encore parler de cette presse à scandale qui instrumentalise des faits pour faire vendre leurs journaux et qui, à la suite, ne prennent jamais en compte l'impact de la visibilité d'un acte sur des victimes. Bon, je passe aussi les blagues dégueulasses lancées dans le quotidien qui dédramatisent les actes odieux, le choix de rendre des actrices dans la pornographie mainstream imberbes, chose impossible, jusqu'à la puberté chez tous les êtres humains.
Un enfant de moins de 16 ans n'est jamais consentant.
Bon, Eve, je suis désolée, mais là, il y a trop à dire. Genre, j'ai pas envie de passer sur ce sujet en 5 minutes emballé, c'est pesé, ça va pas être possible. Alors qu'un enfant sur 5 est victime de pédocriminalité en Europe, c'est 4 enfants par classe. Et la moitié de ces enfants vivent ces agressions dans le cadre de la famille. On zappe trop ce sujet.
Et le petit chaperon rouge nous a habitués à avoir le méchant comme le grand méchant loup. Alors que contrairement à cette image de méchant aux grandes dents, un pédocriminel peut être timide et gentil, ou drôle et généreux, il est monsieur tout le monde. Il est celui que tu croises à la caisse d'un supermarché, celui que tu croises autour d'une pétanque dans un parc, ou encore avec qui tu refais le monde autour d'un verre. Même une personne gentille peut commettre des choses odieuses.
Un enfant de moins de 16 ans n'est jamais consentant.
Mais que faut-il faire dans cette société qui légitime ça?
Il faut parler.
Mais comment on parle? Comment on crée des liens de solidarité, des espaces safe?
Alors déjà, plus on en parle, plus ça va lever le tabou sur les faits sordides et soutenir les enfants à sortir du silence et de la culpabilité, et peut-être à porter plainte.
Alors voilà, on vous donne quelques outils à diffuser autour de vous qui aident et qui libèrent la parole.
Alors déjà, c'est difficile d'aborder le sujet avec tout le monde et en particulier les enfants. Alors il faut le faire, c'est déjà un début, mais comment? On va pas parler de pédocriminalité, on parle de consentement. Consentement! Pouvoir dire si on est mal à l'aise avec quelqu'un, pouvoir refuser d'être seul avec cette personne ou que n'importe qui nous touche, pas être obligé de faire un bisou. Ensuite, on parle des bons et des mauvais secrets. Ces derniers sont des secrets qui font mal, qui enferment et ceux-là, c'est important de les partager avec des personnes de confiance pour s'en libérer.
Et on termine en vous donnant le nom de quelques associations ressources du territoire vers lesquelles vous pouvez vous tourner en confiance. Et vraiment.
Alors, il y a une association qui s'appelle les mots d'enfants, les mots résilients, donc les mots MAUX d'enfants, les mots MOETS résilients. C'est une association locale pour aider les enfants violés ou agressés sexuellement qui travaillent dans le Lot, la Corrèze et la Dordogne.
Il y a aussi l'APPEL, donc APPEL, Association de prévention des psychotraumas des enfants dans le Limousin.
L'ARAVIC, qui est une association d'aide aux victimes de façon plus large.
Et le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Où vous pourrez trouver de l'information et des juristes compétents.
Puis, plus simplement, il y a le numéro 119 pour signaler toute maltraitance à l'enfance.
Merci beaucoup à toutes les deux. Vous avez choisi comme titre musical Ma Petite de Meryl et Rachel Ellison. Merci infiniment pour cette dernière chronique. Merci d'avoir parlé de ce sujet. Oh yeah. Ma petite dehors, c'est comme...
Jamais t'as mal, je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi, il a pas le droit. Okay. Si jamais c'est Niama se touche, non, je suis pas là pour toi quand tu
veux. À 4h sur les genoux, la main dans les cheveux, des bisous dans le cou, ça reste entre nous. Il te dit que c'est mieux que maman ne sache pas. Tu sais bien qu'elle aura mal à cause de toi. Chérie, parle, parle, demande de l'aide.
marché. Pété qu'on grimpe, pas laisser s'arriver. Oh. Et y'a grand homme de la série, les salopes cassées. C'est l'histoire de pervers protégés. Premier but à moi qui apprend fou, c'est consentement. Puisque pas tout le monde, ça peut être évident. Et comme personne ne peut pas dire autre livre, franchement. Si ça t'en tenait un sac plein de chaises, attends mes doigts. Ma petite dehors, c'est quand j'aime mieux à t'offrir ce silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les corps. Parle-moi si ton ton te touche, n'aie pas peur, dis-moi, il a pas le droit. Si jamais c'est Nyama se touche, je suis pas là pour toi quand je reviens, dis-moi. Tu n'ouvres la bouche que pour parler ou quand je te nourris. Tu sais, les mensonges ne sortent pas qu'à Halloween. T'es ma chair, t'es mon sang. Si te vole ton innocence, la mort c'est la rançon. Éduquez vos fils, la jupe c'est pas un risque. Même voyelles font écorcher la pubis. Dis-moi à quoi ça sert d'appeler la police. Si je t'en mais rien va gagner. Elles grandissent mais jamais ne guérissent. Domineur, ils chantent comme R. Kelly. Ok.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et nous sommes en direct dans le studio jusqu'à 14h. Dans deux minutes, vous entendrez la chronique en Limousin. Mais je voulais vous parler d'un événement qui aura lieu demain, mardi 13 juin, à partir de 18h à la salle Latreille à Tulle. C'est deux films prémonitoires sur la montée de l'extrême droite. Donc je vous lis le petit, c'est une programmation proposée par Federico Rossin et Peuple et Culture. Donc je vous lis en tout cas le petit résumé qu'a fait Federico Rossin pour cette soirée. Nous approchons du triste anniversaire des 80 ans de l'horrible massacre de Tulle du 9 juin 1944. L'an dernier, nous avions souhaité commémorer cette date par un double programme de films contre la guerre. Cette année, compte tenu du climat politique national et international, il nous semble que la meilleure chose à faire est de tirer la sonnette d'alarme sur une banalisation et une normalisation de l'extrême droite, héritière directe en France de la collaboration avec les nazis, du revanchisme nationaliste et de l'idéologie colonialiste. Nous proposons donc Peuple et Culture et Federico Rossin, deux films qui ont été précurseurs dans l'arrivée de ce phénomène très inquiétant, un film français des années 80 et un film américain des années 90. En les revoyant aujourd'hui, on a froid dans le dos et on regrette le temps perdu à croire qu'on peut discuter avec des forces politiques qui n'envisagent le processus démocratique que comme une entrave à leur violence extrémiste. Le premier film sera donc à 18h, ça s'appelle La filière noire, c'est de Jean-Daniel Simon. C'est un film qui date de 1985. C'est un film invisible jusqu'à aujourd'hui, qui a donc été produit par France 3 et qui avait été complètement censuré par la chaîne à l'époque, la chaîne France 3 elle-même. Voilà, c'est entre fiction et documentaire, c'est un film qui décrit le processus de normalisation d'un parti d'extrême droite après la chute des dernières dictatures en Europe et dans les années 70. Et le deuxième film, après un repas partagé, à 20h45, il y a Bob Robert de Tim Robbins. Donc Bob Robert qui est un homme d'affaires et qui joue de la guitare, un millionnaire autodidacte qui veut devenir le prochain sénateur de Pennsylvanie. Voilà donc ce rendez-vous à ne pas manquer, la montée de l'extrême droite de films prémonitoires. C'est demain soir à partir de 18h à la salle Latreille à Tulle. Dans 5 minutes, je vous parlerai du temps de demain. Vous êtes ici sur Bram FM, il est 13h50 et c'est l'heure de la chronique en Limousin. A tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Lundi dernier, le Palais-sur-Vienne accueillait la 16e étape du Tour de France des déserts médicaux. Une centaine de personnes ont pu rencontrer 6 de leurs députés. Tous sont membres du groupe de travail parlementaire transpartisan qui, en janvier dernier, proposait la loi numéro 741 contre les déserts médicaux à l'Assemblée nationale. Damien Maudet, député LFI de la première circonscription de Haute-Vienne, est l'un d'entre eux.
Bah, nous, c'était important, je pense, qu'on le fasse aussi ici avec Stéphane, puisqu'on était engagé dans ce groupe de travail depuis le début. C'est tout notre travail à l'Assemblée qu'on a envie de montrer aux gens, montrer ce que c'est qu'un travail parlementaire et un travail transpartisan.
Renvoyée en commission des affaires sociales, cette proposition de loi n'est depuis janvier toujours pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
L'objet de ces réunions, c'est déjà de convaincre la présidente de l'Assemblée nationale d'inscrire notre proposition de loi dans ce qu'on appelle les semaines de l'Assemblée.
Stéphane Delautrette, député PS de la seconde circonscription de Haute-Vienne.
C'est-à-dire que dès lors qu'un travail est issu d'une réflexion transpartisane, nous réclamons son examen dans une semaine de l'Assemblée et pas dans une des niches parlementaires des uns et des autres, et que notre texte puisse être présenté et débattu tout d'abord à l'Assemblée nationale, et évidemment s'il est adopté, bien qu'il suive la navette parlementaire pour arriver au Sénat, pour être examiné à son tour au Sénat et enfin être approuvé in fine.
Le groupe de travail parlementaire contre les déserts médicaux réunit 42 députés issus de 9 groupes parlementaires. De LFI à LR en passant par Renaissance, la proposition de loi rassemble les signatures de 202 députés.
C'est quelque chose qui est totalement inédit sous la 5e République.
Yannick Favennec, député Horizon de la 3e circonscription de la Mayenne.
D'avoir à la même tribune des députés qui sont d'obédience si différente. Pourquoi ? Parce qu'on a tous dans nos circonscriptions la même problématique de gens qui n'ont pas de médecin. Vous avez 6 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas accès à un médecin.
L'un des enjeux majeurs de cette proposition de loi est la régulation de l'installation des médecins à travers l'attribution d'une autorisation d'installation délivrée par l'ARS en fonction des besoins du territoire.
Les médecins, il faut qu'ils s'installent là où nous avons besoin d'eux. Il y a 87% du territoire national qui est un désert médical. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour beaucoup, à condition qu'on régule, à condition qu'on incite les médecins à s'installer dans ces 87% du territoire et non pas sur la côte d'Azur ou sur la côte atlantique où on sait que là, il y a entre guillemets une surpopulation de médecins.
Le groupe parlementaire propose également de réformer et démocratiser l'accès aux études de médecine en priorisant le nombre de places pour les étudiants en fonction des besoins territoriaux, mais aussi en aidant financièrement les étudiants.
Dans la proposition de loi, on a mis la possibilité d'avoir un contrat d'engagement de service public, donc de se voir financer les études lorsqu'on vient de territoires, plus éloignés. Des territoires sous-dotés. Oui. En vérité, vous savez, les déserts médicaux, c'est la ruralité, c'est clair, mais c'est aussi les quartiers populaires. Regardez le quartier de Beaubreuil aujourd'hui. Il y a presque plus de médecins dans le quartier de Beaubreuil. En vérité, je pense qu'une des solutions, ce sera quand on aura des petits gars et des petites filles de Beaubreuil qui pourront faire des études de médecine, qu'on pourra leur financer des études de médecine une fois qu'ils sont diplômés, eux iront s'installer dans le quartier. C'est sûr que toutes celles et ceux qui ont le moins accès aux études de médecine, que ce soit les catégories socioprofessionnelles défavorisées, mais aussi ceux qui sont éloignés en fait des grands pôles urbains, il faut qu'ils aient accès. Peut-être qu'on y mette que l'État soit un peu plus insistant ou un peu plus volontaire pour faire en sorte qu'ils puissent accéder à des études de médecine.
Un troisième aspect de la proposition de loi est la réorganisation de l'exercice des soins.
Il y a parmi les propositions que nous faisons dans cette proposition de loi le développement de centres de santé avec une réflexion autour du salariat des médecins. Donc là, on sort du cadre purement libéral en allant vers le salariat, disant que ça fait partie du panel de solutions que l'on peut proposer. C'est le rétablissement de l'obligation de la permanence des soins. Donc ça qui est un vrai sujet, c'est un sujet particulièrement prégnant sur Limoges par exemple, donc sur lequel aujourd'hui, je crois qu'à un moment, pour régler les choses, il faut prendre des mesures. C'est de nature, Parce qu'on nous dit, vous n'abordez pas forcément la problématique de l'hôpital. L'engorgement des urgences, pour partie, est lié à la difficulté qu'ont les personnes à rencontrer un médecin. Et notamment, la nuit, les week-ends. Le rétablissement de l'obligation de la permanence des soins, c'est une des manières aussi de désengorger nos urgences pendant ces périodes hyper tendues.
Aujourd'hui, la proposition de loi Valetout visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels est débattue à l'Assemblée. À défaut de voir la sienne à l'ordre du jour, le groupe de travail contre les déserts médicaux a déposé 16 amendements à l'encontre de cette loi afin de placer les déserts médicaux au cœur du débat parlementaire. Charline Do, Kaolin FM pour le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure... Et c'est un peu vrai, le ciel bleu nous tombe un peu sur la tête. Cette fin d'après-midi déjà sera très pluvieuse et orageuse sur le territoire corrézien. Orages avec donc des averses éparses qui se poursuivront demain matin sur le territoire. Demain après-midi, l'ambiance du ciel sera lourde et électrique. Des orages encore, vous allez me dire oui, pardon, de vous annoncer tous les jours à peu près la même météo, sont en effet prévus sur l'ensemble du territoire. Orages d'ailleurs qui pourront se poursuivre jusqu'à dans la soirée. Les températures matinales iront de 16 à 19 degrés du nord au sud et dans l'après-midi, elles ne grimperont pas beaucoup. Elles se conditionnent d'ailleurs entre 21 degrés à Sornac et Égletons, 22 à Trégnac et Userche et 23 degrés qui sera la maximale attendue à Tulle, Brive et Argentat sur Dordogne. Les orages de cet après-midi s'accompagneront de rafales allant jusqu'à 55 km/h partout en Corrèze, donc attention. Restez bien vigilants, mais cette ambiance orageuse devrait se calmer mercredi, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve demain pour la météo à 13h55. C'est la fin de cette émission et de ce direct. Un grand merci à mes chroniqueuses du jour, Benjamin, Mathieu et Jeanne. Un grand merci à leur participation toute l'année aux chroniques et à tout leur travail qu'ils et elles font bénévolement pour nous et pour les auditeuristes. Donc un immense merci à eux. Et on espère évidemment les retrouver l'année prochaine, même si on sait déjà que Jeanne ne pourra pas être avec nous. Merci à vous, auditeuristes fidèles et même les infidèles. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le podcast de l'émission de la rubrique Vous êtes ici, sur le site internet de Bram FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Facebook pour tout savoir sur l'actualité de la radio et pour entrer en contact avec nous. La suite du programme à 14h, donc dans 3 minutes après Whisky Paradis, ce sera votre émission métaclassique qui décortique la musique avec David Christoffel. Et ce soir à 21h, c'est Vertigo, bien sûr. Demain, je vous retrouve à 13h avec Aude Gérardin pour nous parler d'un grand événement qu'Erel vous prépare sur le territoire corrézien. Je vous souhaite d'ici là une excellente après-midi à l'écoute de Bram FM, bien sûr.
Bram FM